RCF.
Dans les années 30, est-ce qu'on peut dire que à peu près tous les pays, au moins d'Occident, pratiquent le foot et l'ont adopté?
Oui, effectivement. Donc, cette diffusion a été très rapide. Notamment, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a eu une espèce d'anglomanie au sein des, de la bourgeoisie. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tous les premiers grands clubs, en tout cas en Europe. Je pense notamment en Italie, au Milan, à Milan ou à Turin, dans ces grandes villes industrielles-là. En France, à Paris notamment. Toute la bourgeoisie qui est assez fascinée par l'Angleterre et par la révolution industrielle en cours en Grande-Bretagne vont mettre en place des clubs comme ils ont vu en Angleterre. Par contre, il va se passer quelque chose d'assez important à partir des années 20 et années 30, avec l'avènement des grands régimes totalitaires, c'est que il y a la mise en place des premiers grands clubs et des premiers surtout grands championnats et grandes compétitions. Hein. La première Coupe du Monde, c'est quand même 1930. Les régimes totalitaires, et notamment l'Italie fasciste de Mussolini, hein, qui va vraiment être un pionnier dans cette mouvance-là, va très bien comprendre la puissance de mobilisation des populations avec le football.
Quoi. Et s'en servir.
Alors, ils vont vraiment s'en servir à des fins politiques, dans le sens où, bon, le football, ça reste avant tout un espace de représentation des corps, et c'est vrai que dans les idéologies totalitaires et notamment fascisantes, il y a toujours cette question-là de virilité, de bonne santé,
et de suprématie.
Corps, de suprématie aussi raciale, puis aussi des soldats. Hein. Le football va permettre aussi de former des futurs soldats, donc il y a vraiment cette mise en scène du corps, et c'est vrai que le football s'y prête extrêmement bien, notamment parce que, encore une fois, ça reste un jeu, un bastion masculin et un jeu extrêmement viril.
Et donc, ça devient un moyen et un lieu de propagande.
Ça devient un lieu de propagande, et c'est vrai que le grand exemple et le premier exemple sportif, c'est Mussolini qui va mettre cela en œuvre. C'est durant la deuxième Coupe du Monde, hein, donc celle de 1934. Il serait qu'il y aura des efforts en termes de propagande assez novateurs à l'époque. On va inviter pas mal de journaux, on va avoir des traducteurs pour traduire les matchs en différentes langues, on va commencer à mettre en place des convois de trains spéciaux pour faire venir des supporters, et c'est vrai que ça va vraiment être une mise en scène assez incroyable du pouvoir fasciste à l'époque pour la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est l'Italie qui gagne comme par hasard, mais c'est vrai qu'au lieu de remettre la Coupe du Monde, Mussolini va remettre sa propre coupe, hein, la Coupe Mussolini. Le monde entier et l'institution sportive, notamment la FIFA, va être assez fascinée par cette propagande et par ce spectacle là qui est vraiment un spectacle populaire aussi, quoi.
La FIFA qui existe déjà à ce moment là
Ah oui, la FIFA a été donc mise en place par des Français, notamment par Jules Rimet en 1919 et la première Coupe du Monde. Donc comme je
disais, en France.
Oui, la FIFA elle est organisée en France et la première Coupe du Monde a lieu en 1930 en Uruguay. Mais comme c'est juste après la crise économique de 1929, elle va être très peu médiatisée parce que très peu de joueurs vont pouvoir prendre le bateau, etc. pour se rendre là-bas.
C'est à Colombe que la France est opposée à l'Italie. Matler, Rimet, Hadza, les deux capitaines sont de vieilles connaissances et avec eux les formalités du TOS sont vite réglées. La rencontre débute devant une assistance record pour un match de football. 60 000 spectateurs. Les Français peuvent espérer la victoire. Les Italiens, tout en noir, se montrent supérieurs. Ils attaquent. La balle parvient à Meazza. Il ouvre sur son ailier. Le ballon s'envole, mais Di Lorto l'arrête.
La suite de l'histoire.
On voit bien que l'Italie fasciste comprend à quel point le foot et les terrains de foot peuvent être des lieux de propagande et des lieux de manipulation des foules. L'Allemagne nazie procède de la même manière ?
Oui, Hitler va très bien aussi s'inspirer de son confrère Mussolini. Et c'est vrai que durant les Jeux Olympiques de 1936, il va essayer de mettre en scène aussi ce football-là. Alors, ça va être un peu plus compliqué pour Hitler dans le sens où l'équipe de football allemande est de très mauvaise qualité sportive. Donc, ils vont vite être éjectés du tournoi olympique par une équipe outsider, notamment la Norvège. Quoi.
Qui est l'homme de papier ?
À l'homme de papier, oui, ça c'est une histoire assez belle. C'est un joueur autrichien
donc
des
Sindelar.
Années 30. Oui, voilà, Matthias Sindelar. Et c'est vraiment le premier joueur en 1938 qui va résister contre l'hégémonie nazie. Alors ça a notamment se passé durant un certain match en avril 1938, juste après l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, hein, après l'Anschluss. Il y aura un grand match amical, entre guillemets, hein, pour sceller un peu l'unité des deux peuples germanophones. Donc ce match-là est arrangé, hein, c'est un un grand match de propagande qui doit se terminer par un match nul, hein, 0-0. Sinlar, donc, qui est le capitaine à l'époque de l'équipe autrichienne. Mais durant le match, l'Allemagne joue tellement mal que l'Autriche est obligée d'un peu feinter, de faire exprès de mal jouer. Mais Matthias Sinlar va craquer et à la 78e minute, il va marquer un but, ce qui va complètement affoler les dignitaires nazis. Quelques minutes après, un de ses coéquipiers, un Karselsta, va marquer un second but. Donc ce match arrangé va se transformer en véritable catastrophe parce que les deux hommes qui ont marqué le but, donc Matthias Sinlar, qui est un homme tout chétif, donc qu'on appelle l'homme de papier, et Karselsta, qui est d'origine polonaise et qu'on appelle le gros. Donc c'est deux personnes qui sont diamétralement opposées
à l'idée aryenne, au physique aryen.
L'homme nouveau, voilà.
Matthias Sinlar qui aura malheureusement une fin tragique.
Oui, une fin tragique. Donc l'Allemagne, après ce but-là, tout le monde va dire qu'il a signé son arrêt de mort, mais il est tellement populaire à Vienne que les nazis vont préférer le laisser vivant. On va essayer de l'intégrer à la sélection allemande, mais il va toujours refuser en prétextant un genou malade. Mais ensuite, il va rentrer dans la semi-clandestinité à partir de 39, notamment parce que sa compagne est d'origine juive, et on va les retrouver tous les deux morts dans leur appartement. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont tous les deux morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, d'autres que c'est un suicide, d'autres que c'est la Gestapo, qu'ils ont assassiné par la Gestapo. Mais bon, qu'importe, c'est Matthias Sinlar est entré dans la légende. Et pour ses funérailles, alors que dans une époque où toute manifestation est interdite, on va avoir près de 15 000 Viennois qui vont accompagner le cercueil dans les rues de Vienne.
Un mot, si c'est possible, du match de la mort.
A eu le fameux match de la mort. Alors pareil, c'était une grande légende. Ça se passe en Ukraine, qui vient d'être envahie par l'armée allemande. Et on va avoir une équipe, notamment des anciens joueurs du Dynamo Kiev, qui vont sortir des camps de prisonniers et qui vont un peu reformer une équipe autour d'un boulanger de Kiev qui va les inciter à reformer une équipe. Parce que à l'époque, donc, les autorités d'occupation ont mis en place un championnat. Mais cette équipe de ces jeunes joueurs qui sortent des camps de prison...
Qui sont absolument pas en état de...
Ils ne sont pas du tout en état de jouer, donc ils vont être tellement bons qu'ils vont enchaîner plusieurs victoires contre les équipes des armées d'occupation, et ça va être encore une fois une véritable humiliation pour l'Allemagne nazie. Et à partir d'un moment, donc, les autorités de Kiev vont dire ce serait bien qu'on fasse un vrai match de la revanche pour essayer de se venger contre cette humiliation-là. Mais encore une fois, cette équipe qui va s'appeler le FC Start va encore une fois battre l'équipe des vigoureux aviateurs allemands. Alors, la propagande soviétique va pas mal s'accaparer cette histoire et va dire qu'à la fin de ce match, les joueurs vont tous être envoyés au camp et en tout cas être assassinés. Les joueurs vont continuer à faire quelques matchs. Ils vont quand même mourir dans des camps de concentration, mais pas en tant que footballeurs, mais en tant que simples Ukrainiens finalement.
L'État français favorise pendant l'occupation la pratique du football, ou bien il y a une sorte de parenthèse dans le pays ?
Il y a une sorte de parenthèse dans le sens où, encore une fois, à l'instar de tous les régimes fascistes, le régime de Vichy va essayer de donner un sens politique à ce football-là. Il va essayer en tout cas de manipuler la Coupe de France. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on va déjà avoir un réseau de résistance au sein des milieux sportifs qui s'appelle notamment le réseau Sport Libre, qui va être mis en place par quelques cadres communistes avec l'objectif vraiment de militer au sein des clubs sportifs, quitte à amener quelques gens dans la résistance. On va avoir aussi quelques joueurs. Je pense notamment à René Galis, qui était à l'époque une star des Girondins de Bordeaux, qui va rentrer dans la résistance armée. Il y a aussi Rino Della Negra, un jeune fils d'ouvrier italien qui joue au Red Star de Saint-Ouen, qui lui va s'engager dans les FTP Moy et qui va être même au sein du groupe Manoukian et qui va mourir en 44 fusillé au Mont Valérien. Donc même dans le champ du football, on va avoir des pratiques de résistance armée ou non.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'URSS. On suppose que là encore, le foot a été utilisé à des fins de propagande et à des fins d'utilisation des masses.
Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en URSS, très rapidement, chaque club va être associé à un corps social de la société soviétique. Donc, il y a le Dynamo qui va être associé à la police politique, au KGB, le CSKA qui va être le club de l'armée rouge.
Quand vous dites associé, ça veut dire que les joueurs sont eux-mêmes issus de ces groupes ?
Par exemple, le Dynamo, c'est vraiment des cadres de la police politique qui encadrent le Dynamo. C'est aussi une façon de recruter des futurs policiers pour le CSK, donc le club de l'armée rouge. Encore une fois, c'est pareil. On va recruter des footballeurs au sein de l'armée. Puis ça permet aussi de donner une certaine image. Même le style de jeu de chacun de ces clubs va un peu refléter soit la rigueur militaire de l'armée rouge ou, par exemple, pour un club comme le Locomotive, qui est le club des chemins de fer, un peu la rigueur mécanique, voilà, on va essayer de retranscrire sur le terrain. Quoi. Alors, il y a une espèce d'erreur dans ce paysage footballistique-là qui va émerger dans les années 20-30, c'est le Spartak de Moscou, parce que c'est quatre frères qui vont monter ce club-là, les fameux frères Staroulstine, et c'est un club qui va être au contraire totalement autonome du pouvoir soviétique.
Mais toléré ?
Alors, qui va être toléré, dans le sens où ça va être un club qui va être rapidement très populaire, parce que c'est vrai que le foot, ça a être un des rares espaces de liberté de choix pour les soviétiques. C'est voilà, c'est moi qui va décider d'être supporter soit du Dynamo, soit du CSKA ou du Spartak. C'est vrai que le Spartak, ça va être vraiment le club un peu de cœur des ouvriers.
Donc c'est une espèce d'espace de respiration un peu pour les
oui,
supporters.
Oui, voilà, ça va être une petite façon de résister. Et puis ça va être quelque chose d'assez intéressant, notamment dans les tribunes des stades, parce que donc le foot va être très populaire dès les années 30 en URSS. Et déjà, donc on est dans cette société extrêmement surveillé. Bon, déjà dans les stades, dans les tribunes, l'anonymat que permet la foule permet déjà en quelque sorte d'échapper un peu à cette pression policière-là. Et puis surtout, il y aura une résistance d'ordre symbolique. Ça veut dire que quand on est supporter du Spartak et qu'on joue contre le Dynamo, huer les joueurs du Dynamo, in fine, ça voudra dire qu'on hue aussi la police politique. Le problème, c'est que, notamment à partir de 1936, le Spartak va enchaîner les victoires sportives. Et c'est vrai que symboliquement, au niveau de l'URSS, ça va donner une très mauvaise image, notamment de certains clubs comme le Dynamo. C'est vrai qu'à l'époque, donc il y a Alvarenti Beria, qui est le chef de la police politique, hein, le chef du KGB, va commencer à truquer les matchs pour que le Dynamo gagne et que ce soit plus le Spartak, et va même envoyer les frères Staroulstine au goulag.
Merci beaucoup. Merci. À demain.